Bonsoir. Même si c'est une formule convenue, je dois dire que je suis tout particulièrement heureux d'accueillir ici Baldine Saint-Girons, qui est tout à la fois une philosophe rare par son œuvre, également une conférencière particulièrement vivante et une personne tout à fait remarquable. Son travail est un travail de longue haleine qu'elle poursuit autour de l'esthétique et de la philosophie de l'art. Et il m'a paru intéressant de l'interroger sur ce parcours, justement, sur ce qui l'a motivé dans ses étapes, quelles sont les variations de ce parcours, à travers en particulier quelques-uns de ses livres dont elle va nous parler. Alors, peut-être première question, pourquoi ce choix de l'esthétique ?
Alors, ce choix n'allait nullement de soi. Au contraire, j'étais presque étonnée quand j'ai publié ma thèse, Fiat Lux, une philosophie du sublime, de l'avoir rangée parmi les ouvrages d'esthétique, alors que pour moi, c'était davantage un travail de philosophie générale, de philosophie première. Pour moi, le sublime n'était pas du tout simplement une catégorie de l'esthétique, et je m'étais échinée à essayer de montrer le contraire. Bon. Je dirais que pour moi, le sublime était un principe, et un principe tellement fondamental que c'était impossible de l'aborder au sein d'une discipline fermée sur elle-même, célibataire, scientifique. Donc, la question se posait cependant pour moi, de savoir si pourquoi est-ce que le sublime avait été systématiquement opposé au beau au milieu du XVIIIe siècle, à une époque où on essayait de fonder l'esthétique comme science. Dans ces conditions, est-ce que le sublime venait démolir l'idée de l'esthétique comme science, ou est-ce qu'il venait la confirmer ? Ma première hypothèse était plutôt la première. C'est à celle-là que, dans les années 90, enfin au début des années 90, je me suis tenue. Puis ensuite, j'ai vu que mon ouvrage avait un certain écho à l'étranger, notamment puisque j'ai eu le prix international de l'ouvrage d'esthétique, et je me suis rendu compte qu'au fond, on pouvait avoir une autre conception de l'esthétique que celle qu'on avait en France, ou même que celle qui semblait issue, au fond, des spéculations de l'idéalisme allemand, hein, puisque finalement, le terme même d'esthétique est un terme forgé par Baumgarten, en 1735, puis en 1750, d'abord en latin, ensuite en allemand, et que c'est un terme qui s'est imposé en France qu'à travers une traduction de l'allemand, à travers une traduction de Sulzer, ça c'est une chose que j'avais découvert, parce que Sulzer est un auteur très important, qui a été publié dans le supplément de l'encyclopédie du XVIIIe. Donc à ce moment-là, on a commencé à la fin du XVIIIe siècle à parler d'esthétique. Mais comme j'ai coutume de le dire, il me semble grotesque de refuser aux anciens de l'invention de l'esthétique, puisque, au fond, ils ont inventé tous les concepts, ou la plupart des concepts, qui sont devenus des concepts clés de l'esthétique, à savoir le beau, le sublime, la grâce, l'imitation, etc. Bon. On pourrait retrouver tout ça dans l'esthétique antique, et devant Gilbert Romère d'Herbet, qui représente Aristote, je n'aurais pas de peine à prêcher cette idée que, bon, il y a une esthétique d'avant l'esthétique, comme il y a peut-être aussi d'ailleurs une esthétique d'après l'esthétique, et qu'au fond, la grande question que je me pose maintenant, c'est quel avenir pour l'esthétique dès lors que notre conception de la science commence à vaciller. Hein, c'est pour mon prochain livre, c'est l'esthétique de point, quel avenir ? La science a un futur, l'esthétique a un avenir, lequel, comment parler de son avenir. Donc, pas du tout, mon premier intérêt, c'était, j'avais beaucoup hésité, je pensais faire de la littérature ou de l'histoire de l'art uniquement, avant que la classe de philosophie éveille en moi une vocation de philosophe énorme, mais c'est vrai que peut-être que je peux, ce que je peux dire, tout de même, c'est que mes études de philosophie à la Sorbonne ont été l'administration d'une frustration intense. Parce que ce qui m'intéressait en philosophie, c'était de régler mes problèmes avec la religion, avec l'esthétique, avec tout ce qui me semblait le plus difficile à comprendre. Et bon, quel est le sens de la vie, de la mort, de la souffrance. Bon, voilà, c'était pour ça que je faisais de la philosophie. Or, j'ai rencontré des maîtres admirables qui m'ont enseigné des techniques vraiment magnifiques. Je leur sais un gré infini de ce qu'ils m'ont appris. Mais tout de même, avant que je ne rencontre, après l'agrégation Kaufmann, Pierre Kaufmann à Rennes, eh bien, j'ai été très saisie de ce que ce qu'on m'apprenait m'était très précieux, mais que ce n'était pas ce pourquoi j'étais entrée en philosophie, comme je croyais le faire en faisant des études de philosophie.
Bien. Alors, après cette thèse, Fiat Lux, vos travaux se sont davantage concentrés justement sur l'esthétique et tout particulièrement sur une façon de l'aborder active, je dirais. Parmi vos derniers livres, l'un s'intitule « L'acte esthétique » et l'autre « Le pouvoir esthétique ». Et il me semble que dans les deux cas, il y a aussi, bon, ça serait peut-être une question annexe, certains rapports à propos justement de cette notion de pouvoir avec le pouvoir de la rhétorique.
Alors, tout à fait. Ce qui est très extraordinaire quand on prend le concept de sublime, c'est qu'il a été élaboré par les anciens dans la sphère du discours. Hein? On croit comme ça que le sublime, ça pourrait être d'abord dans l'ordre de la nature, dans l'ordre du paysage, mais pas du tout. Le sublime ne s'est étendu au paysage qu'au XVIIe siècle. Auparavant, il n'avait rien à faire avec cet ordre-là. Et de même, la grâce chez les anciens, la grâce était aussi très importante dans le discours. Il y a le livre de Meyer sur politique et grâce chez les anciens, qui est un livre très intéressant et qui montre bien à quel point la grâce était un concept dans la politique, dans le discours. Ça avait un rapport avec les trois genres de dire, le enseigner, docere, n'est-ce pas, movere, ébranler, mouvoir, mettre en mouvement, déménager, même comme on a traduit to move en anglais, et puis séduire et persuader, qui était le propre du style fleuri ou gracieux, n'est-ce pas ? Bon, c'était très important de comprendre que la grâce a surgi dans la sphère du discours comme le sublime. Et curieusement, comme la grâce a servi historiquement à critiquer un beau qui n'était que beau, j'entends bien, il y a un beau au sens large, mais bon, je prendrai le beau qui n'est que beau quand je le opposerai le sublime ou la grâce. Et de même que le sublime ne s'est étendu de la sphère du discours à la sphère du paysage qu'au XVIIe siècle, et bien de même, la grâce s'est étendue tardivement au paysage, mais elle s'y est étendue au XVIe siècle. Il y a des textes d'Alberti vraiment admirables sur la grâce du paysage, le paysage en mouvement, la vibration du feuillage, etc. Bon. Donc, c'est très émouvant de penser que les anciens, pour comprendre ce que nous croyons être simplement des catégories, des manières de parler, alors qu'à mon sens ce sont aussi des principes, pas seulement des catégories mais aussi des principes, c'est très extraordinaire que les anciens aient essayé de comprendre le beau, le sublime et la grâce dans la sphère du discours. Parce que dans la sphère du discours, chacun notre nuit, nous, comprend qui peut reproduire un discours, le développer, le recomprendre, lui arracher son pouvoir. Donc si j'essaye de parler de pouvoir esthétique, c'est que, bon, quand on parle de pouvoir rhétorique, on se rend compte tout de suite qu'il y a un pouvoir rhétorique. Mais aujourd'hui, certainement, comme l'a très bien dit quelqu'un qui a fait un très joli livre, Harry Mann, le pouvoir est une question de style, eh bien, on comprend très bien qu'il y a une rhétorique du pouvoir, on oublie aussi qu'il y a une esthétique du pouvoir, et la grande question, et je crois, de savoir pourquoi nos sociétés modernes sont tellement sans défense devant la manipulation esthétique. Il y a une manipulation esthétique, et pour comprendre cette manipulation esthétique, il faut remonter d'une esthétique de la réception, non seulement à une esthétique des véhicules et des moyens, mais à une esthétique de la conception, montrer entièrement en amont comment on recomprend ou on comprend ses pouvoirs esthétiques. Alors il y a donc, comme vous le disiez très justement, cette volonté d'élaborer une esthétique de la conception, donc une esthétique proprement philosophique, soit pas simplement en aval une esthétique de la réception ou au milieu une histoire de l'art ou une critique littéraire au niveau des moyens. Et puis il y a deuxièmement, il y a cette idée de transformer celui qu'on juge, qu'on expédie beaucoup trop facilement comme un simple spectateur, lui redonner sa dimension d'acteur. Et j'avais été très étonnée de voir que dans un de ses premiers textes, La naissance de la tragédie, Nietzsche parlait de Der ästhetische Zuschauer. Et les traducteurs rendaient ce terme par le spectateur artiste. Bon. Der Zuschauer, c'est difficile à traduire en français, la traduction spectateur, pourquoi pas, mais il y a quand même l'intentionnalité. Mais surtout, en allemand, il y avait l'idée d'esthétique. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau esthétique? Alors, mon idée, c'était de dire que le spectateur était une forme d'acteur, une forme de médiateur, et qu'il fallait bien comprendre la différence entre l'acte et l'action, entre l'acte et le mouvement, comprendre que l'acte, c'est une action signifiante, une action qui est pénétrée d'une certaine décision, et il fallait essayer de ressaisir cette décision plus ou moins mythique par laquelle je décidais d'entrer en résonance avec le sensible. C'est ça que j'ai appelé l'acte esthétique et dont j'ai essayé de donner des exemples, comme celui de la paix du square que j'ai eu l'occasion de développer ici.
Alors ça, c'est sublime. C'est absolument sublime. Ce premier chapitre de l'acte esthétique, dans lequel vous décrivez justement cette paix du soir à Syracuse, hein, la situation, tous les éléments qui interviennent dans ce moment, hein, dans ce moment qui est un moment partagé, hein, et donc avec qui est animé de vecteurs, de vie, il y a une tension, et vous en décomposez, je trouve, admirablement, tous les éléments, et tous ces éléments vivants, justement. Vous montrez bien que c'est quelque chose d'extrêmement fin, fragile, mais que c'est aussi, justement, par cette rareté aussi, quelque chose d'extraordinaire.
Et je suis très sensible à ce que vous venez de dire, Francis, parce que vous avez tout de suite vu que c'était une expérience cardinale de sublime. Or, ce n'est peut-être pas évident que ce soit une expérience cardinale de sublime pour des gens qui ont une conception du sublime abstraite, sauvage, désincarnée. Bon. Moi, j'ai toujours lutté contre la formule du sublime, la définition du sublime comme imprésentable de la présentation ou irreprésentable de la représentation, formule de Marin, reprise par Lyotard. J'ai lutté contre cette formule et je disais tout simplement le sublime, c'est ce qui aurait été irreprésentable si justement ce n'était pas présenté. Mais maintenant, j'irai plus loin. Et justement, sur l'expérience de la paix du soir, il me semble que il y a une manière d'expédier le sublime, de refuser de le considérer comme essentiel, qui consiste purement et simplement à dire qu'il échappe à la représentation. Il échappe à la présentation. Or, si mon exemple de la paix du soir est tellement fondamental, c'est parce qu'il n'échappe pas à la présentation et qu'en plus, en l'occurrence, il s'agit d'une expérience collective. Alors, je résume très, très rapidement, parce que peut-être que ce n'est pas du tout clair de parler de l'expérience de la paix du soir. Il s'agissait, à la fin d'une longue journée de travail, entre Noto et Syracuse, j'avais fait le matin une conférence justement sur la paideia et sur Antigone, enfin bref, à Noto. Et puis nous nous étions promenés toute l'après-midi à Syracuse avec deux Siciliens. L'un avec lequel un philologue avec lequel je travaille de longue date, qui a contribué à une traduction de plusieurs de mes livres en italien, et l'autre qui était plutôt le témoin, le troisième. Et nous avions revu les latomies, nous avions revu le bassin d'Ortigie, nous avions vu ce merveilleux dôme de Syracuse, vous savez, où les colonnes sont enveloppées, des colonnes antiques sont enveloppées dans la maçonnerie moderne, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est le lait de l'Antiquité entière qui revit à l'intérieur de ces maçonneries. Et nous nous promenions sous le Longomare. Et à un certain moment, j'ai dit, comme si ça m'avait été soufflé, c'est la paix du soir. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que Giovanni Lombardo, avec donc cet ami de longue date, qui a une mémoire formidable, qui sait le grec, le latin par cœur, comme c'est tout Dante par cœur, bon, nous nous sommes mis à échanger, est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est ça? Oui, c'est la paix du soir. Et nous avons changé évidemment les vers de Virgile, les vers de Dante, les vers de Hölderlin. Bon, et nous avons aussi fait une sorte de dissertation sur Sera en italien, la pace de la sera, qui c'est pas du tout la même chose que la paix du soir en français. Bref, nous avons passé une soirée extraordinaire. Et ensuite, nous avons énormément désiré retrouver cette paix du soir. Mais malheureusement, impossible de la retrouver. Est-ce que Syracuse était répétable? Bon. Et quel était le rapport de tout cela avec le sublime? Sur le moment, nous ne l'avons pas. Bon. Ce qui m'avait semblé très remarquable, c'était une idée que j'avais trouvée chez Lacan, c'était cette histoire du signifiant dans le réel. C'est-à-dire ce moment extraordinaire où, entre les mots et les choses, entre les signifiants poétiques, signifiants littéraires, et d'autre part l'expérience sensible de ce ciel qui semble s'approfondir dans la mer, enfin de cette mer qui semble échanger avec le ciel, eh bien, quelque chose se produit d'une jonction, c'est-à-dire que les signifiants ne sont pas d'un côté, le réel n'est pas de l'autre, mais le réel et les signifiants s'enrichissent mutuellement. C'est cet enrichissement mutuel qui m'a semblé caractéristique d'un sublime, mais d'un sublime concret, justement, d'un sublime qui n'est pas abstrait, d'un sublime qui n'est pas sauvage, et d'un sublime qui n'était pas non plus exempt de mélancolie. Comme on le disent bien les vers de Dante, très souvent, on sent la paix du soir en s'en sentant plus ou moins exclu, ou on est en voyage, on n'est pas chez soi, on sent que la paix du soir est quelque chose qui est à la fois donné et refusé, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, et qui avait vraiment, je crois, à faire avec ce sublime, et un sublime qui était finalement... qu'il était possible de ressentir, non pas dans la seule solitude subjective, mais à trois. Hein, puisque c'était ce qui nous a frappé, c'était cette communicabilité de cette expérience, et cette expérience qui grandissait de sa communicabilité, alors que souvent, on a le sentiment un peu pénible, enfin, que quand on ressent très vivement les choses, on ne peut absolument pas les communiquer. C'était le contraire, cette expérience. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre ce qui me semble central dans l'esthétique. Je vois Fabienne Rugère qui vient d'arriver, qui a fait beaucoup de travaux sur le beau, la politesse, la communication que crée le beau. Il m'a semblé qu'il y a une communication en profondeur, une union des âmes en profondeur qu'engendre le sublime qui crée un lien, un vinculum même substantialé au sens lamnicien du terme, absolument extraordinaire. Parce que c'est vrai que quand on a vibrer profondément ensemble à un certain moment devant un certain tableau, une certaine musique, un certain paysage, on se sent moins seul et on se sent plus fort. En quelque sorte, on a l'impression qu'on trouve des repères.
Parce qu'effectivement, il y a une présence partagée en définitive, hein. Une présence qui est partagée et qui est échangée et qui est confirmée par les remarques qui rebondissent en quelque sorte les unes par rapport aux autres.
C'est ça. Et le sentiment que les mots, c'est ça que je trouve qui est tellement délicat, que les mots, si maladroits soient-ils, si extérieurs s'ils semblaient quelquefois à l'expression décrite, quand tout d'un coup, avec une grande bonne volonté, on essaye de s'en servir pour creuser une situation et lui donner toute sa force, les choses changent. C'est là où il y a une éducation esthétique qui n'est pas secondaire. Enfin, et c'est là où on voit que l'acteur esthétique est un médiateur absolument merveilleux. Tous ceux qui font connaître les œuvres d'autrui, qui se donnent beaucoup de peine pour essayer de dire ce qu'on peut dire sans gêner, jouent un rôle essentiel. C'est vrai que j'ai eu une chance énorme parce que j'ai une mère qui avait fondé les conférencières des monuments historiques juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai eu la chance que, quand j'étais petite, elle m'emmenait avec elle dans les musées et que j'aimais passionnément ces expériences. Et maman, au lieu de m'instruire, me laissait tranquille et me regardait où j'allais. Et elle me demandait plutôt, elle me posait plutôt des questions, me disant, mais pourquoi est-ce que ce tableau t'impressionne tant? Qu'est-ce qui t'impressionne dans ce tableau? Et évidemment, c'était une expérience très valorisante pour moi, et très, mais en même temps très utile. Et je pense que, au fond, c'est une expérience toujours très, très instructive que de savoir ce qui séduit l'autre, ce qui l'inspire, ce qui le charme. Et donc j'ai distribué ces papiers là, j'en ai encore quelques-uns pour ceux qui viennent d'arriver, sur les trois principes du pouvoir esthétique, parce que il m'a semblé que le pouvoir esthétique n'était pas monolithique. Et ce qui m'importe beaucoup dans le pouvoir esthétique, c'est au fond c'est qu'il y a des pouvoirs esthétiques. Le pouvoir esthétique, il n'est pas monolithique. Et ce tableau qui se trouve donc dans ce livre, tout à fait à la fin de ce livre, montre bien que entre le beau, le sublime et la grâce, ou plutôt entre les verbes qui correspondraient à, qui décriraient l'action de ces principes esthétiques, eh bien, il y a des différences qui confinent quelquefois à l'incompatibilité. On peut inspirer sans plaire. On peut charmer sans plaire. De même, on peut plaire sans inspirer. Il est donc extrêmement important de comprendre à la fois les points de jonction entre ces trois pouvoirs et les points de séparation. Et en même temps, je pense que très souvent, on est fatigué de quelqu'un qui vous inspire un temps. Il faut donc qu'il consente à séduire. Il y a des principes tournoyants du sublime. Bon, je ne pourrais pas évidemment démontrer ici, et peut-être que j'ai tort, mais je crois avoir raison, mais que ces trois principes sont vraiment, enfin, permettent de comprendre trois types de pouvoir esthétique, et que c'est difficile de savoir s'il y en a vraiment plus. Il y a des quantités de mixtes entre ces trois principes, mais si on essaye de les isoler, ma clé, ça a été effectivement la réflexion sur la rhétorique ancienne, parce que je trouvais que la différence entre enseigner, ébranler et concilier était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Plus j'ai lu les anciens, plus j'ai trouvé qu'il fallait s'appuyer là-dessus. Et donc j'ai essayé de comprendre le lien entre ébranler, movere, comme on dit en latin, et inspirer, ça allait de soi. Entre concilier et charmer, ça allait de soi aussi. Celui qui était moins clair, c'était le lien entre plaire et enseigner. Pourquoi est-ce que j'ai essayé d'établir cette liaison entre plaire et enseigner? J'ai pris enseigner au sens du docere latin. Je crois qu'il y a des professeurs qui inspirent davantage, des professeurs qui charment davantage, des professeurs qui plaisent davantage. Mais il y a toujours, dans le fait de l'enseigner, d'expliquer quelque chose, d'instruire peut-être, l'idée d'un certain canon, d'un certain ordre à suivre, d'un certain d'une manière d'éclairer qui est meilleure que d'autres, d'un catéchisme intelligent, enfin, qui est meilleur que d'autres. Bon. Donc, il m'a semblé qu'il n'était pas abusif d'opposer les trois principes d'efficience du pouvoir esthétique et de mettre en regard l'enseigner, le plaire, l'ébranler, l'inspirer, le concilier et le charmer. Alors, dans chacun de ces cas, j'ai essayé de comprendre d'abord le principe, donc faire une théorie du principe, avant de faire une théorie de la stratégie ou une théorie du rapport au destinataire. Et j'ai essayé de comprendre quelle était la qualité opérante. Eh bien, curieusement, j'ai pensé que du côté du plaire, du côté du beau, il y avait de la dignité. La dignité, je ne sais pas, mon grand-père disait « Soyez coquets, mes enfants, on est toujours assez laids ». Il mettait la coquetterie de façon assez rusée, du côté donc d'une sorte de devoir, de beauté, d'élégance, de manière à ne pas, justement, à ne pas déplaire, ne pas être offusqué la vision. Il y a une politesse dans la beauté, il y a une dignité dans la beauté. Au contraire, dans le sublime, il y a ce qu'on pourrait appeler la gravité, la gravitas au sens latin, c'est-à-dire ce sentiment de quelque chose qui a du poids, n'est-ce pas, qu'on ne... comme le dit Longin si bien, non seulement le sublime, ça résiste à l'examen, mais ça résiste à l'oubli. Hein. Il y a dans le sublime quelque chose de difficile à effacer. Hein. Il y a quelque chose qui vous impressionne, qui pèse lourd. Bon. Et au contraire, du côté la grâce et du côté de la conciliation, il y a ce que pour appeler la suavité ou la douceur. C'est que le beau concerne par excellence la forme. Le sublime pourrait concerner, si on voulait, le contenu, la pensée. Hein. Mais en se rappelant bien ces renversements que Nietzsche décrit si bien dans un de ses fragments posthumes, quand il dit que pour celui qui est artiste, il y a un renversement, c'est-à-dire... Ce qui est forme pour le vulgaire devient matière pour l'artiste. C'est exactement le sublime. Et du côté de la grâce, on a cette importance considérable de ce qu'on pourrait appeler la manière ou les manières en un sens non péjoratif. C'est que le beau subsiste à part soi. Qu'on l'admire ou qu'on ne l'admire pas, au fond, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, il semble avoir une sorte... d'assaïté, d'autonomie, d'existence par soi. Le sublime, au contraire, saisit et dessaisit. Il n'a pas cette autonomie-là, il n'existe que dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire il faut qu'il s'empare de moi. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est la nécessité de lier saisissement et dessaisissement. Et la grâce, elle, donne et reçoit à la fois. Et c'est peut-être ce qui la rend si charmante, c'est qu'au moment où elle donne, elle semble recevoir, et au moment où elle reçoit, elle semble donner. Dans le beau, il y a une apparence d'autonomie. On croirait à l'autonomie du beau. Dans le sublime, il y a une apparence de création. On croit à la créativité, à la capacité qu'a l'être humain de créer. Dans la grâce, il y a une apparence d'échange. Parce qu'à ce moment-là, on croit vraiment qu'il y a une relation entre les êtres. Le beau prône des valeurs de luxe, si l'on peut dire. Le sublime des valeurs du génie. La grâce des valeurs de civilisation. Et c'est ce qui explique que finalement, l'harmonie et la convenance sont absolument essentielles au beau, si bien que l'ennemi du beau, l'ennemi par excellence, l'antonyme par excellence, c'est le difforme. C'est le lait sous la forme de l'informe et du difforme, du dissonant. Hein, il y a trois types de laideur à mon sens. L'ennemi du sublime, son antonyme absolu, c'est la médiocrité. Là où il y a de la médiocrité, il ne peut plus y avoir de sublime. Diderot le disait déjà. Et s'il y a du lait dans le sublime, eh bien, s'il y a une laideur contre laquelle lutte le sublime, eh bien, c'est le lait qui terrasse, qui n'est pas sublimable, qui enlise, la médiocrité qui enlise, hein, la fadeur médiocre dont on ne peut pas se débarrasser, quoi, qui vous colle la peau, on ne sait pas quoi en faire. Bon. Au contraire, l'ennemi de la grâce, c'est la violence. Ce que la grâce essaye d'effacer, c'est la violence. Et donc le lait, la laideur contre laquelle lutte la grâce, c'est bien cette laideur violente, révulsante, insupportable. Et cependant, chacune de ces actions de plaire, d'inspirer ou de charmer le beau, le sublime et la grâce, ont chacun une forme vicieuse. J'ai essayé de voir quelle elle pouvait être dans chacun de ces cas. Il me semble que pour le beau, c'est le froid. Vous savez ce qu'on dit, l'esthétique, c'est froid, c'est glacé, c'est des belles images bien cassées, c'est l'abstrait, c'est l'éthéré, ce qui est beau, mais bon, qui n'est que beau, qui
est luxueux. On dit une beauté froide, on le dit.
Une beauté froide, oui. Le rêve de pierre, etc. Bon. Et du côté du sublime, malgré tout, le sublime est quelquefois du côté de l'inhumain, du monstrueux. Bon, c'est le risque qui guette le plus près le sublime. Bon. Et du côté de la grâce, c'est le maniéré, l'hypocrite, le grotesque. Alors maintenant, quels sont les chiffres de chacun de ces pouvoirs? Eh bien, il m'a semblé que, très évidemment, le chiffre du beau, le chiffre du plaire, c'est l'unité, c'est l'un. C'est le principe de solitude, ce principe d'autosuffisance, ce que Hegel appelait le trait une ère ou immobile du deuil. De là, l'espèce de certitude que donne le beau. C'est la certitude d'Okiri. On sait qu'on est, c'est beau ou ce n'est pas beau. Morphologiquement, la beauté s'impose ou ne s'impose pas. C'est tout autre chose, à mon sens, que la grâce, bien que la beauté et la grâce aient souvent été confondues. Le principe du sublime, c'est le deux. Pourquoi est-ce que c'est le deux? Parce que le principe est toujours du sublime est toujours agonistique. C'est toujours un principe de confrontation à l'autre. C'est toujours un principe de combat. On lutte contre quelque chose en soi. On lutte, on se sent terrassé par le sublime, par la sublime chez l'autre. Et alors c'est ça, effectivement, le sens de ma théorie du sublime, c'est de dire que dans le sublime, on n'est pas seulement dans la reconnaissance, on est aussi dans la production. C'est pourquoi c'est une notion si complexe, tellement plus difficile que celle du beau, parce que le beau est dans la reconnaissance, alors que dans le sublime, nous sommes sollicités, ébranlés, nous sommes entamés, et nous devons en quelque sorte reproduire. On le comprend beaucoup mieux à partir du moment où on comprend que le sublime est élaboré dans la sphère du discours. Quant à la grâce, son principe, c'est le 3. Le 3, qui peut être le principe de la ronde, les trois grâces qui se tiennent les mains, ou bien le 3, la farandole, avec le plus saint qui s'ajoute. Et c'est pourquoi, dans la grâce, il y a toujours un élément de fête, de rêve, de quelque chose de très... on pense tout de suite à un bateau, à l'embarquement pour Cythère, etc. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'esthétique de la conception. Est-ce que vous voulez que je continue sur la stratégie?
Ah oui, c'est passionnant. Oui.
Bon, alors, cherchons, après avoir essayé de comprendre l'intention profonde de celui qui a un pouvoir à la fois naturel, qui a une tendance à plaire, à inspirer ou à charmer, et qui veut le développer. Bon, en voulant le développer, il va transformer les moyens qu'il observe chez lui ou chez autrui de manière à les améliorer et à leur donner le maximum de pouvoir. Il y a donc deux pouvoirs, ce que bien dit Hobbes au début du Léviathan, n'est-ce pas ? Il y a un pouvoir naturel et puis un pouvoir qui s'utilise lui-même, qui utilise ce pouvoir naturel. Alors, dans la stratégie, il s'agit de comprendre pourquoi celui qui vise à plaire, celui qui vise à inspirer, celui qui vise à charmer ne se comportera pas de la même manière. Celui qui vise à plaire dissimuler sa propre stratégie. Ars est celare artem, disent les anciens. L'art consiste à cacher l'art. Et c'est une chose très importante pour rendre visible l'idée, pour rendre visible le contenu. Il s'agit précisément d'avoir un certain retrait par rapport à cette technique. Du côté du sublime, on aura bien davantage de présence, d'implication dans son propre discours, et même de véhémence. Je m'accuse moi-même de quelquefois de véhémence, donc pas que je sois sublime, mais que certainement, cherchant quelque chose qui m'échappe, je suis dans une certaine tension qui se reflète dans mon discours. Bon. Donc, il y a une véhémence, il y a un pathos, il y a ce furor qui caractérise le sublime et qui le rend parfois tout à fait insupportable. Et bon, on se demande, ou bien on entre dans le discours qu'on dit sublime, ou bien on le trouve ridicule, oiseux, etc. Donc, ça peut susciter des réactions extrêmement différentes. Et quant à la grâce, alors c'est évidemment le moyen le plus délicieux d'entrer en contact avec autrui, puisqu'on est en vibration, qu'on partage des vibrations, qu'on sent ce qui se passe, qu'on ne reste pas en dehors. Alors, si on essaie de voir comment ça se passe du point de vue de la créativité, le beau, c'est certainement correspond à l'esthétique de l'imitation. Et dans le beau, il y a une hantise de la perfection du modèle et on regarde vers ce modèle d'une façon conservatrice. On essaye de le reproduire, de donner l'éclat du beau. Du côté du sublime, assurément, c'est davantage l'inventivité ou l'invention elle-même sur laquelle on porte son accent, parce qu'il y a une sorte d'émulation, de nécessité, d'irruption, d'une volonté de dire des choses dont on a le sentiment que ça n'a pas été encore dit ou pas de cette manière. Enfin bon, finalement, sans doute, y a-t-il une croyance du côté du sublime dans la force de ce qu'on pourrait dire si on y arrivait. Et quant à la grâce, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une stratégie d'appropriation qui n'est plus celle de l'imitation, c'est une sorte de ce que j'appelais le butinage de traits charmants qu'on collectionne ici et là et qu'on essaye de reproduire à bon escient. Si on essaye de transcrire tout cela dans la politique, on s'apercevrait du côté du beau, on serait plutôt conservateur, du côté du sublime, on serait plutôt révolutionnaire, et du côté de la grâce, on serait plutôt réformateur. Ceci dit, là, j'ai parlé de style, réformateur, révolutionnaire ou conservateur, puisque ce serait aussi des styles qu'on peut emprunter à volonté ou non. Mais est-ce qu'on peut emprunter un style à volonté ou non ? Oui et non, c'est-à-dire oui, en tant que c'est quand même une technique, et non en tant que se l'approprier véritablement, ça suppose que véritablement on puisse le reconcevoir. Et alors, quels sont les talents requis dans chacun de ces cas ? Il me semble que du côté du beau, c'est surtout la sagacité, la sérénité, l'utilisation de moyens qui plaisent en général. Alors que du côté du sublime, on prise bien davantage l'audace. Et c'est parce que ma philosophie du sublime, c'était une théorie des risques, n'est-ce pas ? C'était le sentiment que on risque toujours la laideur, on risque de déplaire, on risque de contrarier. Bon, si on n'assume pas ce risque-là, eh bien, on risque de s'auto-inhiber. Du côté de la grâce, en revanche, on apprécie énormément à la fois la discrétion et l'adresse, la saisie de ce qui complète dans une situation donnée, le sens de l'adaptation à la circonstance, un kairos, un sentiment du joint propice particulièrement développé et particulièrement sensible à ce qui se produit entre les êtres humains. Alors, quelles sont les manifestations privilégiées de ces stratégies ? Pour le beau se manifeste un peu partout, bon, dans la sphère du divin, bien sûr, mais aussi dans le cosmos, dans l'ordre du cosmos, le cosmos comme ordre, chez les êtres humains, dans tous les arts. Bon. Mais ce qui est très frappant, quand on examine la réflexion sur le beau, c'est qu'on s'aperçoit que la réflexion sur le beau dans l'Antiquité était le fait des métaphysiciens et aussi des rhéteurs, bien que, bon, il y ait, finalement, dans les trois styles, il y a le style simple, le style fleuri, le style sublime, mais bon, le style beau comme tel n'existe pas vraiment. Alors que, à partir du XVIIIe siècle, on a vraiment essayé, déjà à partir de la Renaissance très largement, mais à partir du XVIIIe siècle, c'est très extraordinaire, on a essayé, surtout en France, on a essayé d'opérer une jonction entre le langage des métaphysiciens qui s'occupait vraiment du beau comme tel, de l'idée du beau, et les réflexions non seulement des rhéteurs, mais des artistes. Et tout d'un coup, on s'est intéressé de plus en plus à ces discours et à établir une jonction entre les deux types de discours. C'est ça. Alors ça a commencé évidemment en Italie à la Renaissance, mais ça continue au XVIIe siècle dans ces magnifiques textes, les discours de l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais chez Philippe Bien, Roger Dupuy, etc. Mais ça s'est vraiment accentué tout au long du XVIIIe siècle. C'est pourquoi, en tant que XVIIIe-iste, je suis bien placée pour comprendre ces grandes mutations. Et pour le sublime, c'est encore plus net que pour le beau. Dans l'Antiquité, il était au-delà du discours, mais il avait besoin du discours. Le discours était sa médiation par excellence. Et il s'est étendu aux arts seulement à la Renaissance et au paysage seulement au XVIIe siècle. Pour la grâce, c'était essentiellement dans la sphère du discours, mais ça caractérisait aussi les êtres humains ou dans l'architecture, bon, le style corinthien par exemple, et ça s'est étendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au paysage à la Renaissance. Alors maintenant, si nous examinons les rapports de ces trois principes esthétiques ou des stratégies qui sont déployées aux règles et aux canons, eh bien on voit que dans le beau, nous avons l'incarnation privilégiée des canons. Alors que, en ce qui concerne le sublime, il y a toujours subversion des canons. Il ne peut pas y avoir de canon du sublime. Hein. Le sublime, évidemment, on a essayé de montrer qu'il y avait des techniques du sublime, mais le sublime est toujours finalement quelque chose qui rompt avec les techniques ordinaires. Le sublime est toujours in statu nascendi. Bon. En ce qui concerne la grâce, eh bien, on s'aperçoit que dans la mesure où elle est essentiellement dans le mouvement, elle établit une grande distance par rapport et aux proportions et aux règles. Quel est le rapport maintenant aux convenances sociales ? Il me semble que le beau, c'est le point suprême, parfois problématique, de la convenance. Alors qu'avec le sublime, nous sommes complètement en dehors de la convenance. Nous quittons cette convenance, même si en dernier ressort, quand le sublime revient au beau, nous pouvons retrouver la convenance. Et dans la grâce, eh bien, l'observation des convenances se fait, mais se fait comme si elle allait de soi, n'est-ce pas ? Elle n'a plus rien de sérieux, de digne. Elle est comme une sorte d'incorporation à l'être. Et ça vient du fait que les rapports à la temporalité dans ces trois types de pouvoirs sont très différents. En ce qui concerne le beau, il y a une tendance au statisme, comme si le beau régnait dans un présent éternel, dans une espèce d'achronie, d'indifférence au temps. Au contraire, dans le sublime, nous ne pouvons pas ne pas être engagés dans une dynamique qui concerne l'être dans son entier. Le sublime, c'est le moment où le passé et l'avenir entrent en jonction. Le passé devient gros de l'avenir et gros de ce que les anciens appelaient l'aïon, la vitalité spirituelle. Dans la grâce, en dernier ressort, nous avons au contraire un présent immédiat. C'est un mouvement léger, un tempo qui est gracieux et qui nous séduit infiniment. Voilà, alors il me reste à parler du dessinataire.
Si vous voulez.
Oui, ça vous convient ?
Ah, mais tout à fait, tout à fait.
Bon. Bon.
Surtout que vos analyses sont à la fois extrêmement méthodiques, en même temps, et d'une extrême finesse, hein, puisque vous détaillez absolument les différentes situations dans ce qu'elles ont chaque fois de singulier et vous les pensez.
Merci, merci de me dire cela. C'est vrai que je prends un risque en présentant un tableau, c'est-à-dire que j'essaye toujours, mes travaux aussi, toujours entre l'analyse d'œuvres très précises et puis d'autre part des généralisations. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a un moment où les œuvres sont nos maîtres et puis un moment où ces œuvres ont cessé d'être nos maîtres parce qu'elles sont, elles sont comme sorte des illustrations. Donc il y a toujours quelque chose de très risqué à faire de cette... présenter ce tableau un peu systématique parce bien que sûr. On risque de paraître abstrait et de perdre le flux. Mais c'est vrai que je pourrais donner des exemples très concrets de chacune des propositions là que j'ai avancées. Alors quand on essaye de comprendre ce dessinataire qui est au fond l'acteur esthétique,
oui.
C'est ce que cet acteur esthétique, qui est principalement un personnage extrêmement important, qui fait que la culture se répand, que l'honneur se répand, qu'on peut lutter contre le nihilisme, que les artistes sont connus des non-artistes. Bon, ce rôle de médiateur est absolument magnifique, essentiel. Et, bon, il ne s'agit pas du tout, en faisant l'éloge de l'acteur esthétique, de le confondre avec l'artiste. Ce sont des génies séparés, mais des génies aussi qui s'unissent sous un certain angle. Alors, j'ai d'abord essayé de comprendre la forme d'expérience des acteurs esthétiques dans ces trois pouvoirs esthétiques. Du côté du beau, indéniablement, c'est la contemplation, le constat, l'étude. La contemplation, ça vient de templum, le temple, n'est-ce pas ? C'est comme l'idée de mettre dans un temple le beau et de pouvoir le considérer à loisir. Dans le sublime, c'est autre chose que la contemplation. C'est la sollicitation, qui est une sorte de véritable épreuve, la stimulation, la mise en mouvement. Quelquefois, dans le sublime, on perd de vue ce qui a suscité le sentiment du sublime. Quelquefois, on perd de vue la forme, parce qu'on est tellement pris par le contenu. Je me rappelle une fois, je m'étais sentie très, dans une position d'imposture, parce que mon professeur de philo, en terminale, m'avait donné un exemple à vos petites camarades, bon, en disant, vous voyez, Beldine, elle redit les choses, mais elle les dit autrement. Mais il se trompait, c'est simplement que j'avais complètement oublié comment elle avait dit les choses, donc j'avais oublié la formule, Bon, j'essayais de réimproviser, bon, en croyant mettre fond de moi. Et ça m'avait frappé parce que c'est quand même, n'est-ce pas, où finalement nos défauts sont nos qualités sont nos défauts. Bon, et dans le sublime, il y a ça. Il y a quelquefois, on est emporté par un mouvement, on a peine à revenir à ce qu'il a sollicité. Hein. Donc, il y a là une difficulté. On y arrive d'ailleurs, il faut s'y forcer, mais quelquefois, c'est vraiment difficile. Et quant à la grâce, elle ne provoque ni la contemplation ni la sollicitation, mais l'adhésion. Nous adhérons profondément. Quand quelqu'un est gracieux, ça nous donne un sentiment d'avoir une faveur, d'être une libéralité, de quelque chose de merveilleux. Bon. Donc, notre mode d'attachement est extrêmement différent suivant les trois cas. Dans le cas du beau, c'est vraiment le goût qui triomphe. Un goût qui est d'ailleurs critique, qui s'exerce, qui est une faculté de gustation qui est très remarquable. Bon. Dans le sublime, je crois que c'est le sentiment de responsabilité qui s'exerce. Quand nous reconnaissons quelque chose comme étant sublime, nous savons que nous le produisons et que nous prenons en charge. Je crois que c'est quelque chose de très intense, que nous devons répondre du sublime. C'est pour ça que le sublime est si profondément civilisateur, du moins au sens où je l'entends, c'est-à-dire au sens où véritablement il se manifeste et où nous devons être attentifs à ces manifestations. Et en ce qui concerne la grâce, je crois que c'est l'inclination. Nous aimons les personnes gracieuses, même si quelquefois nous ne savons pas être aussi reconnaissants que nous devrions l'être à l'égard de ces personnes gracieuses, parce qu'elles nous rendent la vie plus facile, plus supportable, plus profondément agréable. Elles nous font croire à la communication. Alors, quels sont les types de représentations dans chacun de ces cas ? Dans le cas du beau, la représentation est toujours possible, mais non nécessaire. Il faut tout de même que nous nous donnions un peu de peine pour l'analyser. Dans le cas du sublime, il y a quelque chose de bizarre, c'est sa représentation forcée, même si, au fond, j'ai mis simplement exigence nouvelle, même si ça nous rebute, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de mémoire qui est liée au pénible du sublime, qui fait que nous ne pouvons pas ne pas nous en rendre compte, mais ce que nous pouvons, c'est hausser les épaules et nous en détourner, et trouver ça fascinant, fatigant, lassant. Bon. En ce qui concerne la grâce, eh bien, nous avons vraiment l'impression du je ne sais quoi au sens où les jésuites de la fin du XVIIe siècle ont théorisé, c'est-à-dire le je ne sais quoi à faire avec la vitesse. La grâce face avec le mouvement. Et ce je ne sais quoi, c'est quelque chose que nous saisissons à la dérobée. Je signe que nous luttons. Ça va si vite, la grâce. À quoi ça tient ? C'est tellement fugitif. Comment repérer les signes ? Alors, quels sont les risques encourus ? Eh bien, dans le beau, nous subissons une séduction pratiquement qui semble plus passive. Enfin, nous sommes séduits par le beau. Mais il y a une sorte de poids du destin, de fatalité du beau, peut-être. Bon, ouais. Dans le cas du sublime, nous sentons l'entraînement. Nous sentons entraînés par le logos lui-même, par la prise en charge, par le fait de répondre de ce logos. Et dans la grâce, je crois qu'il y a une séduction plus active qui est justement liée aux attraits. Quelque chose qui nous attire, qui attire dans cette ronde, qui nous rend nous-mêmes plus gracieux du fait même qu'il y a une présence gracieuse. Bon. Enfin, quand il s'agit de répondre du beau, du sublime et de la grâce, il me semble qu'on en témoigne de façon différente. Du beau, on témoigne par l'admiration. Ce qui est beau, c'est bon, sur les stars, ce qui brille dans un autre ciel, c'est les people. Bon, sont quelquefois beaux, quelquefois rebutants, mais ils sont. Il y a une certaine admiration, une forme d'admiration à laquelle s'oppose la simple indifférence ou voire le mépris. Le sublime, lui, il engendre l'étonnement au sens fort, l'étonnement des Anglais, astonishment, l'atterrement, le foudroiement. Le sublime nous foudroie. Et en ce sens, on pourrait dire que le propre du sublime, c'est de nous génialiser ou au contraire de nous rebuter. Bon. S'il ne nous génialise pas, le sublime nous intimide ou nous fait fuir, nous rend plus ou moins lâche. Quant à la grâce, je crois qu'elle engendre proprement l'amour. L'amour, c'est que on n'est pas, il n'y a pas de star, il n'y a pas de génie, mais c'est le courtisan au sens de Castiglione, au sens, vous savez que Charles Quint avait deux livres de chevet, l'un le livre du courtisan de Balthazar Castiglione, et l'autre, le prince de Machiavel. C'est assez amusant de penser que c'était ces deux livres qu'il pensait comme la meilleure formation pour un empereur et formation complémentaire. Bon. Le courtisan, c'est celui justement qui sait manier la sprezzatura, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par la désinvolture, c'est précisément ars escellare artem, c'est-à-dire qu'il sait dissimuler l'application. Qui fasse croire que tout vient de la nature, alors même que ça vient beaucoup de l'exercice et que c'est beaucoup plus sophistiqué qu'on ne pourrait le penser. Donc, voilà, trois idéaux anthropologiques qui sont bien différents, la star, le génie, le courtisan. J'ai donné ça comme ça, comme exemple, il faudrait évidemment développer, mais c'est une manière de dire que, voilà, ces principes du pouvoir esthétique ne sont pas les mêmes, qui sont parfois incompatibles, sont parfois mixtes et sont parfois très instables, c'est-à-dire que parfois il faut passer vraiment de l'un à l'autre pour avoir du pouvoir esthétique, mais qu'on a intérêt à comprendre la diversité de ce pouvoir esthétique et qu'on peut voir d'ailleurs comme des couples peuvent être fondés sur l'union du sublime et de la grâce ou du sublime et du beau, comme souvent dans un couple on voit que quelqu'un se définit par rapport à l'autre et a tendance à ou non à privilégier certains types de pouvoir. Finalement, cela, ça avait été admirablement thématisé par les anciens. Dans le jugement de Paris, lorsque Paris a eu à choisir entre Athéna et Aphrodite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a traduit, il a choisi Aphrodite, qui est la grâce, alors que Héra était la beauté, et Athéna le sublime. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est la grâce qui avait sa faveur? Alors évidemment, il y a l'interprétation absolument magistrale de Freud, qui est une des choses les plus belles, c'est-à-dire trois figures féminines, la mère, l'épouse et la mort. Mais il y a aussi cette idée que, ce sont des conceptions de la vie humaine qui sont là, et des conceptions du pouvoir véritable, de ce pouvoir esthétique fondamental qui déborde la simple apparence, mais qui remodèle les apparences à partir du privilège qu'il donne ou bien à l'acte de plaire, ou bien à l'acte d'inspirer, ou bien à l'acte de séduire.
En conclusion du pouvoir esthétique, vous faites un portrait et en même temps un éloge de l'activité d'enseigner. Et je voudrais que vous en parliez un petit peu et que, au fond, vous le reliez à ce que peut-être l'absence d'une sorte d'enseignement à l'acte esthétique, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui, finalement, de laisser complètement en déshérence cette formation à ce qui pourrait être une formation qui est complexe, hein, bien sûr, mais formation à ce qui permettrait aux personnes d'être justement des acteurs esthétiques et pas simplement des récepteurs passifs?
Merci beaucoup. Je suis professeur, j'adore enseigner, j'aime de plus en plus enseigner, j'ai l'impression que je fais de moins en moins mal, mais peut-être aussi c'est une illusion. En tout cas, mais ce que j'aime dans le métier de professeur, c'est justement le courage du professeur, c'est le pro fateor, n'est-ce pas? J'avoue hautement, haut et fort, ce que j'ai trouvé utile dans ce qui m'a été appris, dans ce que j'ai lu. J'essaie de transmettre quelque chose qui permet de lutter contre le nihilisme ambiant. J'essaie de transmettre mes enthousiasmes et je reçois énormément en échange, parce que je pense que être professeur, c'est aimer profondément ses élèves, ses étudiants, et qu'ils redonnent vie à votre propre savoir. Il y a une circulation qui est celle de la vie et qui est une chose magnifique. Et quand on parle des profs avec certains mépris, je trouve ça que c'est absolument honteux. Je trouve que je fais un métier qui est à la limite du métier, qui est peut-être une vocation, et en tout cas qui... j'ai plusieurs professeurs ici, de très grands professeurs. Je pense qu'il faut comprendre à quel point la tâche du professeur a partie liée avec la tâche de la civilisation. Voilà. Et qu'il ne faut pas, la secondariser. Alors, ceci dit, je viens d'un colloque à Toulouse qui était sur les figures du maître. Et donc, je trouve aussi très intéressant de comprendre le rapport entre le professeur et le maître. Je pense qu'il y a plusieurs types de professeurs, et des professeurs qui plaisent, qui inspirent ou qui séduisent, plus ou moins, qu'il y a des types de cours qui sont plus ou moins risqués, mais qui exigent tous des talents considérables et un investissement considérable. Et au fond, ce concilium, cette conception du professorat est en même temps une conception esthétique. C'est ce que j'essaie de montrer, c'est que l'esthétique, elle est toujours et partout, elle est en amont du travail du professeur et en aval du travail du professeur, il faut absolument trouver des formules qui saisissent, qui touchent, qui puissent être retenables, qui puissent engendrer le travail. Le plus grand compliment qu'on puisse avoir en sortir d'un cours, c'est de sentir les élèves qui immédiatement se jettent sur les livres qu'on vient de leur signaler. Voilà, c'est de transmettre ce feu qui brûle en soi et arriver à le transmettre et de sentir le sien grossi de cette expérience-là. Et c'est pas la mode aujourd'hui de faire un éloge du professeur, et c'est pour ça que j'ai tenu vivement à le faire, parce que je trouve que nous sommes dans une société sans modèle. Je trouve que le fait que vraiment ces people, ces politiques souvent qui nous inspirent pas vraiment confiance, bon, on essaye d'éviter, bon, des mots durs, on essaye de respecter la fonction, on essaye d'honorer les honneurs, bon, on fait un gros travail de mise en place pour ne pas faciliter le dégoût, le mépris a priori, mais ce travail est quelquefois vraiment pénible à faire et difficile. Bon, je pense qu'il y a des professeurs qui sont encore vraiment des modèles, pour, comme il y a dans d'autres corporations, des gens qui sont de remarquables médecins, de remarquables avocats. Mais je tiens à ce modèle. Bon, je tiens aussi au modèle de l'artiste, que je crois qui est de plus en plus prépondérant. C'est vrai que moi, quand j'ai quand même fait mes études, c'était le modèle du savant qui s'imposait au modèle du professeur, comme seul modèle du professeur. Ensuite, c'est vrai, un modèle plus artiste du professeur. Et le modèle de l'artiste, il est multiple, parce qu'au fond, c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans mon livre sur l'acte esthétique. J'ai essayé de montrer que les actes esthétiques se moulait sur des actes artistiques très différents. C'est sûr qu'on n'est pas pour rien peintre ou sculpteur, jardinier ou paysagiste, chorégraphe ou architecte. Bon, chaque fois, ce sont des actes très déterminés, des choix très déterminés qui sont à l'origine de ces œuvres. Et si vous voulez, ce que je pense effectivement, c'est que il s'agit de comprendre pour notre jeunesse comment s'orienter. Et c'est vrai que les professeurs ont un rôle considérable dans cette orientation, et que si la jeunesse est très déboussolée, ben forcément, les professeurs s'en sentent responsables. Bon, donc j'ai voulu, parce que c'est mon métier, parce que je le connais vraiment de l'intérieur, faire cet éloge de ce qui est beaucoup plus qu'une fonction, je crois qu'il y a vraiment une vocation et qui a partie liée avec la santé d'une civilisation.
Tout à fait. Bon, nous n'avons pas parlé de votre dernier livre, La Pietà de Viterbe, qui est une analyse d'œuvre qui est particulièrement vivante, qui montre d'abord la collaboration entre deux artistes, hein, qui sont Michel-Ange et Sebastiano Dal Piombo, les deux. Et c'est une œuvre, justement, on vous voit en tant qu'actrice esthétique, si j'ose dire, face à l'œuvre, hein, et en convoquant votre savoir, hein, et un savoir quelquefois extrêmement pointu sur des œuvres de la même époque, à Venise ou à Rome, ou de la sculpture, de la peinture, etc. Et donc vous montrez comment regarder une œuvre, simplement, c'est une activité, véritablement, et c'est une activité qui sollicite du regardeur, justement, une mise en mouvement de très nombreuses activités, déjà, et savoir aussi, les deux.
Alors oui, cette œuvre, c'était vraiment un choc pour moi, parce que je venais d'écrire mon livre sur les marges de la nuit pour notre histoire de l'art. J'étais à Rome et j'allais voir l'exposition Sebastiano Dal Piombo. Et tout d'un coup, je suis tombée sur cette œuvre extraordinaire qui me semblait l'épitomée de tout ce que j'avais voulu écrire dans mon livre sur la nuit. Bon, je ne sais pas si vous avez,
oui,
vous pouvez montrer.
Oui, bien sûr.
Il y a dans la revue Art Sacré, d'ailleurs, j'ai fait la suite de ce texte, et la revue Art Sacré, c'est mieux, les productions sont meilleures. En réalité, là, les productions ne sont pas très bonnes, mais je vais vous la raconter. Je vais vous la raconter parce que ce qui est étonnant, c'est d'emblée, c'est cette Vierge incroyablement rude, pas belle, regardant le ciel et ne regardant pas son Fils. Une Vierge très michelangélesque, parce que elle a ses formes presque masculines, ce cou trop rude, ces formes très très imposantes.
Et elle sculpturale.
Semble... Pardon.
Sculpturale.
Sculpturale. Et elle semble émerger de la nuit. Et c'est un des premiers paysages nocturnes après celui de Giorgione, qui a été peint par Sebastiano del Piombo en arrivant à Rome, et qui est un paysage nocturne qui a été très très célèbre immédiatement, dont Vasari parle comme un des plus beaux paysages de nuit sur la peinture. Malheureusement, il est abîmé, ce paysage de nuit. Et alors donc, vous avez cette Vierge qui se tord les mains de douleur et qui converse avec Dieu le Père vers le haut. Et sous elle, vous avez le Christ étendu, mort, mais à peine mort, comme vivant, radieux, magnifique, comme un jeune homme endormi. Et ce beau jeune homme endormi, eh bien, la Vierge ne le regarde pas. Donc vous avez cette impression tout de suite quand vous... de vous trouver devant un apax. Bon, c'est jamais ça n'avait été peint de cette manière, jamais ça ne sera répété. Donc, évidemment, j'ai eu envie de regarder un peu toutes les piétas, bon, et d'essayer de comprendre ce que cette piéta avait de si saisissant, et pourquoi ce que Sébastien del Piombo et Michel-Ange avaient uni leurs efforts pour faire ces tableaux qui renversait l'idée de la maternité ordinaire, qui renversait l'idée de la nuit ordinaire et qui renversait aussi l'idée de la représentation du Christ mort. Bon, puisque là, il est saisi un instant où il semble respirer. Et peut-être que c'est ça, c'est cette union de la vie et de la mort, l'union du cosmos et de la vie. J'ai eu envie de dire, comme première formule, et cette immense nuit semblable à la Pietà, en parodiant le vers de Baudelaire, et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Bon, j'ai remplacé le vieux chaos par la Pietà, parce qu'il m'a semblé que, justement, cette Pietà-là, c'était notre mère à tous, c'était l'émanation de la nuit, cette nuit qui était peinte du fond des âges, bon, et qui nous embrassait. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas songer aussi devant cette piéta à Job. Quoi de plus révoltant, au fond, que pour une femme, que de voir mourir l'enfant qu'elle a porté en son sein et ne pas pouvoir le voir, et pourtant que le peintre le montre de cette manière, est une chose extraordinaire. Alors, et pour la revue Art Sacré, je me suis étendue sur cette idée. Alors, j'ai fait d'autres comparaisons parce que tout d'un coup, il y avait une rivalité entre Michel-Ange et Raphaël, Michel-Ange utilisant Sebastiano del Piombo contre Raphaël pour montrer l'union de la sculpture et de la peinture, du dessin et de la couleur. J'ai pensé que aussi il y avait une rivalité avec Raphaël qui était dans la construction même du tableau. Et je me suis inspirée de cette très célèbre Vierge à l'enfant de Dresde de Raphaël, où vous savez, tout le monde la connaît parce qu'il y a au devant les deux petits anges qui regardent, qui se tournent vers la Vierge, et puis ensuite vous avez la Vierge à l'enfant, et puis ensuite les deux rideaux ouverts avec la tringle qui est déglinguée. Bon. Et on a cette vision à étage, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette vision à étage? Ça m'intriguait. Et puis alors, j'ai fait des recherches justement sur les modes d'exposition de ces tableaux, qui étaient justement des rétables c'est-à-dire juste au-dessus de l'autel, de la table d'autel. Et la table d'autel, à l'origine, c'était le corps du Christ. Donc vous avez deux fois le corps du Christ dans Sébastien Noël Piombo, une fois sur la table d'autel et une fois dans la peinture. Hein. Et donc c'est de ce... c'est certainement aujourd'hui on voit le Christ en bas au lieu de voir au-dessus de l'autel. Donc il y avait certainement cette vision à étage chez Raphaël, ce sont les petits anges, là c'était le corps. Et ensuite vous avez cette plénitude de la Vierge qui occupe tout, qui lévite complètement dans cet espace incroyable de Sébastien de l'Alpiombo. Et ensuite on arrive tout à fait en hauteur et on ne sait plus ce qu'on produit. Il y a la lune, il y a le Dieu le Père, on comprend cette espèce d'ascension et en même temps on comprend ce n'est pas vraiment de la révolte ce qu'il y a dans cette Vierge, mais c'est quand même une incompréhension. Il y a quelque chose de si sobre, quelque chose de tellement aux limites du silence, enfin qui force tellement le respect que c'est vrai, c'est un tableau qui est complètement sidérant, quoi.
Merci.